La France, malgré la position avantageuse qu'elle occupe en tant qu'isthme de l'Europe, est longtemps restée une lourde masse terrestre qui n'avait que défiance envers sa façade maritime. Ce n'était pas sans raison car les populations marines étaient volontiers frondeuses. Les transports terrestres étant longs et coûteux, les routes peu sûres, l'essentiel du commerce transitait par voie maritime. Toute la façade atlantique était le théâtre d'un intense cabotage, depuis le sud de l'Espagne jusqu'à la mer Baltique. Commerçants et marins hispaniques, flamands, basques, bretons, anglais, tous se rencontraient dans les ports et apprenaient à se connaître, à s'estimer et à construire ensemble une vision large du monde. Il devenait ainsi difficile à cette société cosmopolite d'accepter la lourde chape d'autorité morale et hiérarchique qui pesait sur les masses paysannes. De la Bretagne, par exemple, on garde depuis le XIXe siècle la vision d'un pays de tradition et de soumission à l'ordre clérical. L'ouvrage d'André Siegfried, Tableau politique de la France de l'Ouest, publié en 1913, nous en révèle une image inattendue. Si la Bretagne centrale était effectivement très soumise aux autorités traditionnelles, une grande partie de sa frange côtière était républicaine. On retrouve ce constat dans l'ouvrage de Pierre Jacques Elias, paru en 1975, « Le cheval d'orgueil », où l'auteur, parlant des générations qui l'ont précédé en pays bigoudin, met en relief un profond clivage entre le monde paysan, farouchement conservateur, et le monde de la côte, la région d'Audierne, farouchement républicain. En 1967, la célèbre étude pluridisciplinaire conduite par Edgar Morin, « Les métamorphoses de Plodémée », faisait le même constat. Cette étude, réunissant une équipe de chercheurs en sciences sociales pendant un an dans le village de Plozévet, avait pour objet d'étudier les profondes mutations qui bouleversaient le monde paysan à l'époque des Trente Glorieuses. Là encore, au sein du pays bigoudin, deux mondes farouchement opposés politiquement se faisaient face. À titre d'exemple encore, une amie bretonne du Finistère, née dans une ferme près de Locronan dans les années 50, me racontait que dans sa jeunesse, ses parents lui interdisaient de se rendre à Douarnenez, ville de perdition, où les ouvrières des usines sardinières avaient mené des combats homériques. Douarnenez est effectivement restée longtemps une ville dirigée par les communistes. Le Léon, région du Finistère Nord qui n'a pourtant pas de grand port et qui est plutôt connue pour être un pays de maraîchage, figure également en rouge sur les cartes d'André Siegfried. La Vendée elle-même, on imagine avoir été jadis un bloc monolithique au service de l'Église et de l'aristocratie, était divisé entre le pays du bocage, monarchiste et clérical, et le pays du marais, républicain. D'André Siegfried, j'ai retenu également que la région où je réside, située dans un triangle entre Segré, Château-Gontier et Châteaubriant, était à son époque la plus réactionnaire de France. En effet, y régnait bon nombre de familles nobles, héritières de ceux qu'on avait appelés les ultras, ces parlementaires ultra-royalistes de la chambre introuvable de Louis XVIII. Ce n'est donc pas un hasard si dans ce périmètre se trouve une forte concentration de châteaux néo-gothiques édifiés par René Audet, l'architecte favori des bénéficiaires du milliard des émigrés. De ce passé politique de notre région, que reste-t-il aujourd'hui ? C'est une question à laquelle je ne me hasarderai pas à répondre.